nzamba
nzambira samirana
Nous sommes samedi 4 septembre 2021. C'est l'heure du journal sur la radio Inzambagatirakawe. D'abord les titres. Insécurité avec la mort d'un homme poignardé la nuit dernière à Makamba sur la colline Rusinde en commune Garombo. Les auteurs du crime courent toujours. C'est aussi avec la découverte du corps sans vie d'un homme en commune Kibango, province Makamba. Trois suspects ont déjà été arrêtés. Appel à l'unité pour la réhabilitation de l'accord d'Arusha, le vœu est du mouvement MAP Burundi Uhire qui clôture ce samedi la semaine de la campagne pour la restauration de cet accord. La suspension des traités miniers et ses conséquences. C'est de cela que va nous entretenir le mini-magazine au cœur de la société. Ce sera dans la deuxième partie de ce journal. Voilà pour les titres. Au micro, vous êtes avec Josine Kadze. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons ce journal par cette triste brève. Une église en construction s'est écroulée, faisant 8 morts et 20 blessés graves. Le drame a eu lieu sur la sous-colline Kigati, colline Murore, en commune Gisagara, province Cyangugu. La Croix-Rouge qui a évacué les victimes confirme les faits. Les riverains du chantier qui parlent d'un accident craignent que le bilan ne s'alourdisse. Un homme âgé de 38 ans a été tué poignardé dans la nuit de ce vendredi. Cela s'est passé sur la colline Rusinde, zone Rukago, commune Garombo, province Kayanza. Des sources sur place indiquent que les auteurs et les mobiles de ce crime ne sont pas encore connus. Les détails avec Joséphine Jones Mundimana.
Le drame s'est produit dans la nuit de ce vendredi à samedi vers 20h30. La victime de la communauté Batois était connue sous le nom de Raphaël Nikobamye. Cet homme rentrait avec son vélo de transport à son domicile en provenance du centre de négoce de Rukago, situé dans cette même commune. Il s'y était rendu pour transporter quelques matériels de construction et des fenêtres. À son arrivée sur la colline où il était domicilié, il est tombé dans une embuscade étendue par des inconnus qui l'ont immédiatement lynché à coups de poignard. Selon les voisins du défunt, c'était un coup monté du fait que rien ne lui a été volé. Jusqu'à minuit, le matériel qu'il transportait et son vélo ont été retrouvés à côté du corps sans vie. Ils disent également ne pas comprendre les raisons qui ont conduit à son assassinat, du moment que c'était quelqu'un qui cohabitait pacifiquement avec les autres. Pour le moment, 4 personnes sont déjà dans les mains de la police pour des raisons d'enquête. La population demande des enquêtes approfondies à haut niveau pour que les auteurs soient connus et répondent à la justice. Vous saurez qu'un autre cas d'assassinat avait eu lieu dans la même zone de Rukago il y a de cela 2 mois et demi. Une situation qui a coûté la vie à un infirmier de la commune Mwanga. Lui aussi était tombé dans une embuscade, lui tendue par des voleurs.
Découverte ce samedi matin d'un corps sans vie sur la colline Mbizi de la commune Kiwago dans la province de Makamba. Ce corps est celui d'un homme d'une 50aine d'années. Il a été trouvé sur la rive de la rivière Mushara. 3 personnes sont déjà aux arrêts pour question d'enquête. Les détails avec Vanessa Muhiteka.
L'homme retrouvé mort était connu sous le nom d'Onyandira, selon une source sur la colline Mbizi. Sa famille dit qu'il avait été vu pour la dernière fois, le soir d'aujourd'hui dernier, vers 19h. De retour du marché, dit Kwabuhinja se trouva sur la frontière burundo-tanzanienne. Son corps a été découvert ce matin lors d'une fouille perquisition opérée par des policiers du commissariat communal de police à Kiwago en collaboration avec des habitants de la localité. Les voisins de la victime croient qu'il aurait été tué par des gens qui croyaient qu'il avait de l'argent car un changeur de monnaie l'avait mandaté pour changer de l'argent à ce marché. Il affirme que la victime vivait en harmonie avec les autres et qu'il ne faisait partie d'aucune formation politique. Les enquêtes sont en cours selon une source locale. 3 hommes changeurs de monnaie, tous de la commune Mabanda, sont déjà dans les mains de la police pour des enquêtes approfondies.
L'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation a été une bonne base pour réconcilier les Burundis qui avaient longtemps vécu dans des troubles politiques. C'est l'avis du docteur Alphonse Lugambalala, un des signataires de l'accord en 2000. Cependant, il regrette que ce texte ait été petit à petit mis à la poubelle par les régimes qui ont suivi. Aujourd'hui, cet accord semble avoir été enterré par le régime du CNDD-FDD. Docteur Alphonse Lugambalala conseille aux dirigeants actuels et à venir de rétablir l'accord d'Arusha pour l'intérêt d'une démocratie durable au Burundi. Suivez-le.
Les deux mots les plus importants dans cet accord, c'est la paix et la réconciliation. Et c'était ce programme-là que nous avons signé, malgré toutes les difficultés qu'il y avait, malgré les pressions, malgré l'absence des rébellions. La volonté d'aller vers la paix et la réconciliation était quelque part manifeste. Et je pense que je n'en dirai pas plus à ce niveau-là, parce que les choses étaient suffisamment claires et les premières années ont montré que au moins la population était soulagée de voir que réellement la paix allait revenir, la réconciliation allait revenir. Je pense que les choses ont malheureusement pris une autre tournure après. Les programmes de l'accord d'Arusha étaient dans les différents protocoles. Programme pour la réconciliation, programme pour les institutions démocratiques et inclusives. L'enterrement de l'accord d'Arusha ou la mort de l'accord d'Arusha a commencé, je dirais, pratiquement dès le départ. Personnellement, je l'ai vu dès le départ parce que j'étais membre de la commission de suivi de l'application de l'accord d'Arusha. Et déjà, en 2003, j'ai fait le constat que l'accord d'Arusha n'était pas en train d'être appliqué comme nous le souhaitions. Et j'ai démissionné de cette commission. Il aurait dû donc montrer réellement qu'il veut la paix et la réconciliation, mais ça n'a pas été le cas. Ce qui était important, c'était l'image du parti et le pouvoir au parti, et revenir pratiquement au même résultat des pouvoirs dictatoriaux de Bichombero, Babaza ou même Buyoya dans un premier temps. Et voilà ce que je peux dire sur ce qui est en train de se passer. Et comme vous le dites, 2018, ça a été le coup de massue où la constitution ne s'est pas basée sur l'accord d'Arusha et a mis à la poubelle la constitution de 2005 sans donner une meilleure constitution par rapport à l'inclusivité, par rapport à la démocratie, par rapport au développement même. Je dirais que pratiquement tout est à refaire. Donc si nous voulons revenir, je dirais, à la case départ de cette victoire du peuple Murundi, c'est d'avoir le même état d'esprit que ceux qui ont combattu pour l'indépendance, pour la souveraineté, pour l'unité, la réconciliation du peuple Murundi. Et c'est le seul conseil pour le moment que je pourrais donner. Et à la classe politique qui va venir, de changer complètement d'attitude et de ne plus suivre les hommes politiques qui les mènent vers la division, vers la guerre, vers ces problèmes que nous traînons en longueur. Il faut qu'ils se pensent Burundi et qu'ils travaillent pour le Burundi.
Seul le travail dans l'unité pour réhabiliter l'accord d'Arusha pourra mener à trouver les solutions à la crise burundaise. C'est le souhait du mouvement MAP Burundi Buhire. On veut exprimer à l'occasion de la clôture ce samedi de la semaine dédiée à la campagne pour la restauration de cet accord, 21 ans après sa signature. Suivez Libera Niwashira Kandi, porte-parole de ce mouvement.
Aujourd'hui, le Burundi traverse une crise de leadership, une crise politique grave, une crise économique. On l'apprend chaque jour, la violation massive des droits de l'homme, les disparitions forcées, la misère, la faim et les maladies frappent de plein fouet les Burundais. Et tous ces problèmes ne seront résolus que par la réhabilitation de l'accord d'Arusha et la mise en application dans le but de concilier les Burundais, de ramener la paix pour tous les Burundais sans distinction aucune. Tous ces problèmes trouveront une solution par la mise en application, par la réhabilitation de l'accord d'Arusha. Voilà une raison pour laquelle Mapurundi Buhire s'est engagé à faire tout le nécessaire, bien sûr en étroite collaboration avec toutes les forces vives de la nation, tant internes qu'externes, pour que nous arrivions à cet objectif qui est noble de réhabiliter l'accord d'Arusha. Parce que tout simplement, c'est une des voies pour trouver des solutions qui minent le Burundi afin de préparer un avenir meilleur pour nos enfants, pour les générations futures.
Quelques secondes de pause et on se retrouve pour parler économie.
Inzamba.
Le gouvernement burundais devrait instaurer un stock stratégique contenant des produits pétroliers afin de faire face à la pénurie de ces produits. C'est l'analyse de Gabriel Roussiri, président de l'UICOM. Il le dit au moment où plusieurs provinces du pays font face à une pénurie persistante du carburant. Gabriel Roussiri explique que cette pénurie est principalement due à la négligence des autorités burundaises sur ces produits de grande nécessité et au manque de devises. Suivez-le.
Le secteur pétrolier, c'est un secteur sensible qui doit être géré d'une manière correcte et avisée, mais depuis un certain temps, nous remarquons que ce secteur est presque oublié. Mais aujourd'hui, le secteur pétrolier rencontre beaucoup de problèmes, surtout un problème lié à un manque criant de devises comme solution pour le premier problème. L'ORICOM pense qu'il est extrêmement important que le gouvernement explore tous les circuits où les devises peuvent provenir. Ici, d'abord, il faut faire ce qu'on appelle la balance commerciale en développant le secteur agricole, mais surtout les produits industriels exportables, mais aussi les ressources naturelles comme des minéraux. C'est vraiment les principales sources de devises. Solution par rapport à la négligence de ce secteur, le gouvernement devrait mettre en place le stock stratégique pour faire face à la pénurie éventuelle des produits pétroliers. Et nous pensons qu'à ce niveau, on pourrait arriver loin parce que, comme vous le savez, le Burundi, c'est un pays qui ne produit pas des produits pétroliers, raison pour laquelle, si ce stock stratégique est mis en place, en tout cas, ça pourrait aider. Il nous faut vraiment un stock stratégique d'au moins 6 mois. C'est vraiment ce niveau qu'on pourrait avancer. Le Burundi, en tant qu'un pays enclavé, en tant qu'un pays non producteur de ces produits, il est plus qu'urgent que ce stock stratégique soit là.
Parlons sport. C'est en honneur pour le Burundi. L'athlète burundaise Francine Niyonsaba vient d'enchaîner 3 victoires successives dans des compétitions internationales en une période de 2 semaines seulement. La dernière victoire en date a été remportée hier vendredi en 5000 mètres lors d'un meeting qui s'est déroulé à Bruxelles en Belgique. On fait le point avec Benny Axelakana.
Après son exploit samedi dernier à Paris, dans un meeting dénommé Diamond League sur le 3000 mètres, remportant ainsi la course et battant le record du Burundi, l'athlète burundaise de 28 ans, Francine Niyonsaba, a fait un nouvel exploit hier vendredi à Bruxelles, cette fois sur le 5000 mètres. Elle a été première à l'épreuve avec un chrono de 14 minutes, 25 secondes et 34 tiers devant l'Éthiopienne Ejegayehu Tai et la Kenyane Hélène Obili. Par cette performance, Francine Niyonsaba a battu son record personnel de 29 secondes. Ce n'est pas tout, Francine Niyonsaba a remporté le 21 août dernier un autre meeting à Eugene, aux États-Unis d'Amérique. C'est une course qui se fait sur 3218 mètres. Dans cette compétition, Francine Niyonsaba a été chronométrée à 8 minutes 26 secondes et 78 tiers quand elle a dépassé les 3000 mètres, le temps le plus rapide au monde de l'année dans l'épreuve. On se souviendra qu'elle vient de participer aussi aux derniers Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo. Malgré sa 4e place dans la 2e série du 5000 mètres aux Jeux Olympiques de Tokyo, l'athlète burundaise sera disqualifiée dans cette discipline en raison d'une faute de marche mais n'a pas baissé les bras. Elle participera en bonne et due forme en finale des 10 000 mètres dans ces Jeux et décrochera la 5e place. Francis Niyonsaba est connu surtout pour avoir été médaillé d'argent en 800 mètres aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro au Brésil en 2016 derrière la Sud-Africaine Caster Semenya qui avait décroché l'or. Francis Niyonsaba a aussi participé aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 où elle avait été cinquième dans sa spécialité des 800 mètres, une discipline qui lui sera interdite par après en raison de son fort taux de testostérone. Aujourd'hui, elle a opté pour des courses de distance qu'elle réussit avec brio.
Il y a quelque temps, le gouvernement burundais a décidé de suspendre tous les contrats miniers. Quelles pourraient en être les conséquences? C'est entre autres à cette question que le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui va répondre. C'est avec Emile Nibasumba.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Depuis plus de deux mois, le gouvernement du Burundi suspend provisoirement les contrats avec les sociétés minières. Quelles sont les conséquences liées à ces suspensions? Qu'en disent les experts en économie? Voici les principales questions auxquelles le mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021 va tenter de répondre. Vous êtes avec Emile Nibasumba. Avant les suspensions provisoires des contrats miniers par le gouvernement du Burundi, le Premier ministre Alain Guillaume Bunyoni avait laissé entendre que certaines sociétés minières comme Rainbow Rare Earth Limited ne déclaraient pas les chiffres exacts de leur production. Dans la correspondance du 24 juin 2021, portant suspension provisoire de l'exploitation minière adressée à Rainbow Rare Earth Limited, le ministre en charge des mines a signalé que les deux parties doivent d'abord faire de nouvelles négociations. L'analyste en économie Faustin Ndikumana indique qu'un audit était nécessaire avant toute décision de suspension.
Il faut un audit et transparent pour voir les manquements, les manquements. Et dans son contrat qui avait été signé auparavant, si c'était un contrat qui avait des vices, si c'était un contrat qui ne permettait au Burundi d'avoir un bénéfice réel, donc ils font un rapport, transparent sur les manquements liés au procès de signature de ce contrat antérieur.
L'article 23 des conventions entre le gouvernement et Rainbow Rare Earth Limited donne le droit au gouvernement de suspendre l'exploitation minière tout en se conformant aux dispositions du code minier. Faustin Ndikumana évoque des conséquences probables de ces suspensions.
Cette suspension unilatérale et des contrats miniers par le gouvernement est une arme à double tranche parce que quand le secteur commence à avoir des litiges, il est difficile de continuer à investir dans ce secteur. Et aussi, il y a risque de tenir l'image du Burundi au niveau des investisseurs étrangers, disant que dans ce pays, le gouvernement peut suspendre unilatéralement un contrat signé de façon souveraine. Donc, j'imagine que là aussi, le rôle de la justice, le rôle de la protection des investisseurs peut aussi peut y laisser des plumes. Et vous vous souvenez que même en 2003, le gouvernement avait aussi suspendu unilatéralement un contrat minier qu'il avait avec une société qui exploitait de l'or. À l'époque, je crois que le Burundi avait payé des pénalités de 5 millions de dollars. Donc, il faut avoir attention de ces mesures. Et au niveau des conséquences, je crois que si le secteur minier commence à avoir des litiges, ça veut dire qu'on pourra passer beaucoup de temps sans toutefois l'exploiter. Ça veut dire que les investisseurs étrangers pourront afficher des réserves pour venir investir dans ce secteur au Burundi. Ça veut dire que ce secteur ne pourra plus contribuer dans le PIB du pays et ça va affecter la croissance économique. Parce que vous savez que même si on dit que le secteur agricole est le secteur qui va permettre le décollage économique du Burundi, je ne crois pas qu'à lui seul, il peut faire des miracles de développement de lutte contre la pauvreté. Le secteur agricole doit être soutenu par d'autres secteurs, parce qu'actuellement, il contribue à 40% du PIB. Et je crois que le secteur services, tourisme, mines sont des secteurs qui pourraient vraiment doper l'économie burundaise. Si alors on passe du temps à que ce secteur puisse contribuer dans le PIB, ça va enfoncer le pays dans la pauvreté. Et vous savez, mais c'est le problème lié aux devises. Et le Burundi est l'un des pays qui exporte plus de choses au monde. Donc, et c'est un problème. Et il faut vraiment y aller avec prudence.
Même si certains députés estiment que les chiffres déclarés par le gouvernement sont inférieurs à la vraie production, dans le budget de l'État, exercice 2021-2022, les recettes liées à l'exploitation minière sont estimées à environ 3,5 milliards de francs burundais. Au micro de nos confrères de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance, Faustin Ndikumana demande au gouvernement de chercher les médiateurs.
Et j'imagine que le gouvernement devrait jouer de la transparence, chercher une médiation internationale, surtout une médiation de la part des maisons comme Litier. Et Litier, vous savez, depuis longtemps, on avait demandé au gouvernement du Burundi d'adhérer à Litier, parce que Litier, c'est une maison qui a beaucoup d'expertise et qui assiste les pays pauvres, surtout au moment des signatures des contrats, pour que ces derniers ne signent pas des contrats déséquilibrés. Et donc, cette médiation pourrait permettre à ce que la confiance remonte, donc, et pourrait encore et assister justement au niveau de cette expertise. Et dans le futur, on voudrait que, après avoir mis de la transparence dans la procédure du marché, le gouvernement pourrait alors signer des contrats de façon transparente. Utiliser, plutôt faire recours à des experts qui pourraient assister. Et sinon, si on continue à signer des contrats dans l'opacité, les problèmes des gens pourront toujours surgir et pourront toujours causer un tort à l'économie du pays.
Selon l'article 51 des conventions entre le gouvernement du Burundi et la société Rainbow Rare Earth Limited, en cas d'échec du règlement à l'amiable, les parties font recours à l'arbitrage conformément à la procédure de la Chambre arbitrale de Paris. Le droit applicable sera le droit burundais selon l'alinéa 3 du même article. Et selon l'article 53, pendant toute renégociation de la convention, celle-ci continuera à être en vigueur dans toutes ses dispositions jusqu'à la signature d'un accord écrit la modifiant. Et les activités d'exploitation régies par la convention se poursuivront normalement sans aucune modification, suspension ou interruption. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société de ce 4 septembre 2021. Au micro, vous étiez avec Émile Nibasumba. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Terminons ce journal par la revue de la presse hebdomadaire et vous est présentée par Blaise Nijimbele.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditeurs à cette revue de presse que nous commençons par le volet politique. Le journal Iwachu s'interroge si les conditions sont réunies pour les nouveaux découpages territoriaux. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et du Développement communautaire, Gervain Ndirakobucha, avait suggéré lors d'une réunion avec les gouverneurs et les hauts cadres de la police, en date du 17 août de cette année, une réduction des provinces et des communes. L'idée a suscité des réactions, d'autant qu'il y a des formations politiques qu'il avait proposées lors de la campagne électorale de 2020. Pour Simon Wizimung, le secrétaire général du parti CNL, Congrès national pour la liberté, l'objectif visé par ce parti était de faire des économies sur le budget alloué aux provinces et aux communes. L'État doit mettre en pratique la décentralisation pour permettre l'autonomie des communes. Pour Francis Lorello, candidat indépendant à l'époque, l'essentiel n'est pas avoir un grand espace à gouverner, c'est plutôt ce qu'on en fait. Selon lui, 5 provinces, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest et au centre, suffisent pour structurer le pays. Quant à Simeo Barumete, spécialiste des politiques publiques et enseignant à l'Université du Burundi, les conditions ne sont pas réunies pour opérer un nouveau découpage politique parce que les communes n'ont pas des moyens et un obstacle à la décentralisation. Poursuivons cette revue avec Burundi Echo qui écrit sur l'économie et l'environnement. La cuisson des briques avec des sondes de riz. Une méthode à double avantage, titre le journal. La cuisson des briques exige beaucoup de bois et constitue une menace sérieuse pour l'environnement. C'est dans cette logique qu'en commune Lugombo de la province Cibitoke, l'utilisation des sondes de riz a remplacé celle du bois. La méthode présente un double avantage. Elle est moins chère et écologique. Selon le journal, contrairement à ce que pensent les gens, il n'y a pas de différence sur la qualité de la brique, qu'elle soit cuite par le bois ou par le son de riz. Avant la nouvelle méthode, pour cuire 12 000 briques, on dépensait entre 200 000 et 300 000 francs burundais pour l'achat du bois. Avec la nouvelle méthode, 10 000 francs burundais peuvent acheter 10 sacs de son de riz, suffisant pour cuire les 12 000 briques. Donc, on peut récupérer entre 190 000 et 290 000 francs burundais. À ce qui concerne le développement, écrit toujours Burundi Echo, l'inaction de la route nationale numéro 5 risque de coûter cher au pays. Dans le but d'accroître les échanges commerciaux entre les pays, le Burundi a investi dans la construction des routes, indispensables pour le développement. Selon le journal, la route nationale numéro 5 est l'un des axes les plus importants pour le Burundi, étant donné qu'il y a trois pays, à savoir le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Réceptionnée en 2015, cette route est partiellement délabrée. Les usagers subissent des pertes et les autorités locales dénoncent un travail bâclé. Ils disent ne pas comprendre qu'une route construite il y a environ 6 ans peut se dégrader aussi rapidement. En avril 2020, le deuxième vice-président de l'époque, Joseph Butoye, a visité la route avec un objectif de se rendre compte de cette route. Il a déploré la qualité de l'infrastructure. Avant de clôturer cette revue, parole santé pour citer le journal à ligne SOS Média qui écrit sur le COVID-19. Dans la province de Bururi, cette pandémie monte en flèche selon le journal. Même si les autorités cachent les chiffres, après un dépistage effectué le 1er septembre, sur 140 personnes dépistées, des sources médicales affirment que les cas testés positifs sont nombreux. Les mêmes sources indiquent aussi que les stocks de réactifs sont presque vides et les médicaments pour traiter la pandémie sont insuffisants. Voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous terminons cette revue de la presse présentée par Blaise Nijimbele. Merci de votre écoute, au revoir et bon week-end.
Revue de la presse à la radio Indamba.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Indamba pour la réalisation de ce journal. Merci également à vos chères auditrices et auditeurs pour votre fidélité. Au revoir et à la prochaine.